parce que vous ne voyez pas ce que je vois. Ouais, vous êtes beau à voir. C'est super de voir chaque fois vos visages. C'est une grâce de vous voir tous ensemble comme ça. Et Manu, elle disait tout à l'heure, elle parlait d'attente des justes. Elle disait que c'était nos corps. Je crois aussi que l'attente des justes, c'est son chacune des familles. Chaque famille, vous êtes une tante. Et c'est beau de voir aussi les tantes rassemblées. La tante de Jean Bertin, on vous aime. On est heureux de vous voir. Et il y a plein de tantes ici qu'on est heureux de voir. Gisèle, merci pour ta tante. On la bénit. Je bénis chaque tante qui est ici au milieu de nous. Et je pense que si en tant qu'église, on a une grande tente, c'est comme un grand tabernacle que Dieu met au-dessus de nous. Et il a développé ici une immense tente. Vous la voyez, la tente, là? Est-ce que vous la voyez? Et il a rempli cette tente. Il a dit, dehors, tout ce qui n'est pas de lui. Il a dit, allez les anges, remplissez la tente. Allez sous la tente. Et je crois que cette tente, et Dieu veut la remplir de plus en plus de sa présence. J'avais une fois parlé sur Abraham, notre père. Et j'aimerais juste relier ce que je voudrais dire aujourd'hui à ce thème. Souvent, on avait dit que l'Église était maintenant la vraie descendance d'Abraham. Et combien on s'est trompé. On a oublié qu'Israël était toujours aussi la descendance d'Abraham. Et en même temps qu'on a dit qu'on était la descendance d'Abraham, on ne l'a pas vécu. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on était la descendance d'Abraham et on n'a pas réalisé que c'était une vérité aussi, qu'Abraham était notre père. Et si la parole est dit à plusieurs reprises « Abraham est votre père », c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'on a besoin de cette paternité dans nos vies. Je crois qu'on est né de nouveau, on est né dans une lignée spirituelle. Et du point de vue terrestre, c'est comme si Dieu nous disait « Mais je t'ai donné un père. Je vous ai donné un père. » Et si Abraham est dans la lignée spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière lui, il y a toute une descendance. Et ça veut dire que tous ceux qui sont dans la lignée d'Abraham sont aussi des pères pour nous. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà pensé aux grands personnages de la Bible comme étant des pères et des mères? Et comme étant ton pape, comme un père pour toi et une mère pour toi. Et je pense que si Dieu l'a établi comme ça, c'est parce qu'on en a besoin. On dit, tous les psychologues disent aujourd'hui qu'un des grands problèmes de nos sociétés, c'est la figure paternelle. Vous êtes d'accord? Combien on en a besoin? Parce que nos pères ne savaient, eux-mêmes n'avaient plus d'image paternelle, ou même des fois maternelle. Et ils avaient plus de repères, ils n'ont pas su l'être pour nous. Et nous, c'est des fois encore difficile de l'être. Nous aussi, aujourd'hui, on tâtonne encore. Et je pense que ce que Dieu fait, c'est qu'il a mis devant nous des images. Il a mis devant nous des images paternelles. Et on peut regarder à ses pères et ses mères dans la parole comme étant non simplement des personnages avec des belles histoires, mais comme étant des modèles pour nous. Et commencer à écouter ce qu'ils disent. Comment écouter comme un père? Vous avez déjà lu les proverbes? Comment ils commencent souvent des paroles, les proverbes? Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Écoute mon fils. Écoute mon fils. Et je pense qu'on pourrait écouter chaque personnage de la parole, comme chaque descendant, vrai descendant d'Abraham, comme s'il te disait, écoute mon fils. Écoute ma fille. Regarde ma vie. Regarde ce que j'ai vécu. Regarde la relation que j'ai eue avec Dieu. Regarde ce que Dieu m'a appris dans ma vie. Ce qu'il a fait avec ma vie. Regarde aussi des fois mes erreurs. Regarde mes échecs. Regarde mes exploits. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment j'ai vécu. Écoute, mon fils, apprends de moi. Parce que ce que j'ai vécu, ce n'était pas pour rien. Si c'est écrit dans la parole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que tu aies juste une base de connaissances. Ce n'est pas pour que tu aies juste de belles histoires à lire, des beaux trucs à découvrir. C'est parce que Dieu veut te parler au travers de ma vie. Et je crois que vraiment, on doit être à l'écoute. Il y avait, dans Hébreux 11, c'est toute une galerie. Et souvent, on dit que c'est les témoins de la foi, et c'est tout à fait juste. Comme si simplement ils nous regardaient. Ils nous regardent, et c'est vrai qu'ils nous regardent. Aujourd'hui, je pense, parce que la parole, elle dit, on est environné d'une grande nuée de témoins. Mais en même temps, je crois que ça va encore plus loin. Je crois que c'est comme un tableau, un panorama que Dieu trace de notre lignée spirituelle. Il part d'Abel, et il va jusqu'à la fin, et il dit, regarde, ce sont tes pères. Regarde, ils ont marché devant toi, et ils ont tracé une histoire pour toi, pour que tu connaisses leur histoire et pour que tu découvres le message qu'ils ont à te transmettre. À la fin du verset 11, il dit, « Dieu a prouvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Pourquoi ? Parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour tous, pour nous. Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. C'est un début de l'histoire et c'est pour nous. Tout ce qui s'est passé, c'est comme si Dieu l'avait établi pour nous parler. Et Dieu a un message à nous transmettre au travers d'eux. Il y en a donc. Vous pouvez simplement les regarder, hein, si je vous encourage à relire ce chapitre, et voir chacun d'eux comme si c'était un père ou une mère, parce qu'il y a quelques femmes dedans. Et d'ailleurs, je me disais, Seigneur, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes ? Je me suis dit, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a tant d'hommes ? Est-ce que tu veux dire que c'est que par les hommes que tu veux bénir l'Église ? Et pourtant, je suis convaincu que non. Est-ce que ça veut dire que les femmes n'étaient pas à la hauteur ? Je suis convaincu que non. Et vous savez, il me semble pourquoi, une des réponses qui me semble, que je voudrais vous dire, alors elle est sous réserve, hein. C'est parce que je crois que la grande histoire des femmes reste à écrire. C'est parce que je crois que la nuée des témoins, elle est encore devant nous. Excusez-moi. C'est parce que je crois que les femmes ont encore leur parole à dire. Alors le Seigneur, il a équilibré, il a mis beaucoup d'hommes pour qu'à la fin de l'histoire, il y ait équilibre. Alors debout les femmes. N'ayez pas peur, hein. Dieu vous appelle. On a besoin de père et on a besoin de mère. Et Dieu va vous lever, Dieu vous appelle, il va écrire l'histoire avec vous. Et alors je voudrais commencer au verset 31. Par la foi, Rahab la prostituée. On commence bien. Il n'y a pas beaucoup de femmes et en plus, il y a eu Sarah. Alors c'était princesse. Alors merci Seigneur. Je pense vraiment qu'elle est un grand modèle pour nous. Elle est notre mère à tous. Et après, la deuxième, c'est Rahab, la prostituée. Seigneur, t'as fait quoi, là ? Tu t'es pas trompé ? T'es sûr que t'as frappé à la bonne porte ? La seule femme que tu nous rapportes, elle était prostituée. Elle n'est pas morte à ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait avec... Alors, j'ai pris ma version sommaire. Est-ce que je peux avoir une version seconde ? Elle me déroute un tout petit peu. Tu peux vite me passer ta parole. Verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Hein ? Et alors, la version semeur, la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Et j'aimerais commencer par Rahab. Justement, la prostituée. Dieu a été choisir une femme qui était certainement méprisée dans sa propre ville. C'était une ville incroyante. Elle était prostituée. Je pense que dans aucune des villes, dans aucun temps, une prostituée n'a été bien vue. Elle était certainement rejetée par sa ville. Elle était considérée comme une femme de mauvaise vie. Et même sa famille devait dire, on ne la connaît pas, ce n'est pas notre sœur. Je ne sais pas quel était le regard sur elle, mais certainement qu'elle n'était pas bien accueillie. Et le Seigneur, quand il a envoyé les espions, il les a envoyés chez Rahab. Il a dit, c'est là, au numéro 19 de la rue Tartampion. Vous allez toquer. Et celle-là, je l'appelle. Celle-là, je la veux, je la vois, j'ai vu, et je l'appelle. Elle sera une de mes filles, et non seulement elle sera une de mes filles, mais elle sera une mère en Israël, et elle sera dans la lignée spirituelle dans Hébreux 11. Alors allez-y, les gars. Allez vers elle. Et là, ils ont été. Elle avait déjà toute la vie peut-être à dos. Et elle n'a pas eu peur, elle a dit, je vais encore affronter la ville, je les cache. Et quand ils sont venus, ils sont partis, ils ne sont plus là. Hein. Et puis elle les avait cachés. Et elle les a dit, allez dire à votre peuple que votre Dieu est le vrai Dieu. Allez dire que tous les peuples ici tremblent devant le Dieu d'Israël. Allez dire qu'on sait très bien que le pays vous a été donné et qu'il vous appartient. Allez. Et les espions, ils n'ont pas eu besoin de parcourir 50 000 kilomètres. Hein. Ils ont vu une prostituée, ils sont retournés, ils ont dit « Le pays, Dieu nous le donne, il est à nous. » Elle avait eu le message de la foi qui a suffi aux deux espions à dire que le pays leur appartenait. Et la seule chose qu'elle leur a demandé, elle a dit « Je vous demande une chose, sauvez-moi et sauvez ma famille. Sauvez mes pères, sauvez mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui peut-être la rejetaient. » Elle a dit « Sauvez-moi, sauvez-les avec. » Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Donc elle a été sauvée. Vous connaissez, vous savez qu'on reparle d'elle par la suite. Rahab, la prostituée, elle est où dans le Nouveau Testament? Vous savez qu'elle revient? Elle est dans la généalogie de Jésus. Jésus est né de Rahab. C'est une arrière-grand-mère de David. Le grand roi David, il est né de Rahab. Et elle a, par la suite, il a donné, elle est une des grands-mères de Jésus. Jésus n'a pas eu peur de dire cette femme, elle est une de mes mères. Elle est dans ma lignée, c'est par elle que je suis né dans le monde, c'est par elle que je suis devenu un homme. Rahab, c'est ma mère. Et je crois que nous, on ne doit pas avoir peur de dire, Rahab, tu es une mère en Israël et tu es une de mes mères. Je peux regarder à toi parce que tu es un modèle pour moi. Tu as été il y a eu des échecs dans ta vie, tu es parti d'une base vraiment lamentable peut-être, pas estimée du tout, mais tu as été relevé. Et si vous me permettez, vous savez qu'en hébreu, les voyelles, au début, elles n'étaient pas écrites. Donc, ils ont mis des voyelles à peu près selon la tradition orale. Mais des fois, il y a des hésitations. Est-ce que vous me permettez de dire au lieu de Rahab, Rehab? Vous me permettez ça? Parce qu'après, je vais vous dire là-dessus, je vais partir sur mon thème. Parce que je pense que Rehab a donné naissance à un mot français. Réhabilitation. Elle s'appelait Rehab et ça a donné réhabilitation. Bon, ça, c'est de moi, hein. N'allez pas le dire à quelqu'un d'autre. Mais c'est là que je voudrais vous parler, la réhabilitation. Quand j'ai demandé au Seigneur de parler, de qu'est-ce que je vais parler, il m'a dit, j'ai entendu dans mon cœur, réhabilitation. Et Dieu veut la réhabilitation pour nos vies. Et Rahab, c'est une grande réhabilité. Elle était réhabilitée. Elle avait rien dans sa vie qui pouvait dire qu'un jour elle deviendrait quelqu'un de bien. Elle était juste destinée à mourir, à disparaître dans la poussière de la terre, ni vue ni connue. Et Dieu l'a relevée. Dieu l'a appelé, il a dit, toi, je te veux dans mon royaume, je t'appelle, tu seras une mère de mon fils et tu seras une mère en Israël, tu seras une mère pour l'Église. Tu seras un modèle de la foi. Et Hébreu parle d'elle et Jacques parle d'elle aussi. En Jacques 2, il y a marqué, Rahab était un modèle de la foi. Vous vous rendez compte, cette femme? Donc ça veut dire, écoute mon fils, Rahab te dit, écoute ce qu'une de tes mères te dit. Peut-être dans ta vie, tu es parti dans l'échec le plus total. Peut-être qu'il n'y a rien de bien au début de ta vie. Peut-être que tu n'estimais que rien ne t'attendait de bon dans ta vie. Mais moi, je te dis que je t'appelle. Je veux te réhabiliter. Je veux t'établir. Je veux faire de toi un père, une mère. Je veux faire de toi quelqu'un de fort. Quelqu'un qui va sauver mon peuple. Quelqu'un qui va aider le peuple à prendre le pays. Je veux faire de toi quelqu'un de fort et qui a sa place dans le royaume. Je te réhabilite. Je te donne une place. Vous savez ce que c'est que la définition de réhabilitation? Il y a trois sens. Donc premièrement, c'est rétablir dans ses droits. Quelqu'un, par exemple, qui a été emprisonné, il a été condamné en justice, reconnu coupable, et il a été mis en prison. Et un jour, il sort et il a payé. Et il est rétabli dans ses droits. Ou quelqu'un, il n'avait pas eu droit à son héritage pour une raison ou pour une autre. Et un jour, on dit, mais finalement, l'héritage te revient. Il est réhabilité, il est rétabli dans ses droits. Et vous savez qu'en cherchant un peu sur Internet, j'ai été frappé parce que un des premiers sites que j'ai trouvé par rapport à la réhabilitation, ça concerne un Mulhousien. Est-ce que vous savez qui? Dreyfus. Vous connaissez tous l'affaire Dreyfus, hein? Ce grand dégradé, ce grand rejeté. Il a été déclaré coupable simplement parce qu'il avait écrit, a priori, on a trouvé un mot de trahison qui semblerait écrit de sa main. C'était la preuve suffisante pour le dégrader, lui qui avait destiné sa vie à être un soldat parce que Mulhouse avait été envahi par les Prussiens à l'époque. Et quand il a vu ça, il a dit « moi je vais devenir soldat pour sauver mon pays ». Il est devenu un grand homme et dégradé du jour au lendemain. Et pour un homme qui avait un tel sens de l'honneur, un tel sens de la valeur, c'était humiliant, c'était une horreur, un supplice horrible. Et ils ont combattu pour établir la justice, pour établir la vérité. Et un jour, il a été rétabli. Un jour, il était réhabilité dans son honneur, dans son poste, dans ses fonctions. Et je crois que c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de l'homme. Depuis Adam, on a été dégradé. On a été humilié. On a été abaissé. On a perdu la place qu'on avait. On a perdu l'honneur qu'on avait. On était fils de Dieu. On était à côté de Dieu. Dieu venait avec nous tous les jours. Tous les jours, on y venait discuter. Ça veut dire que les affaires de l'univers cessaient. Parce que le roi de l'univers devait descendre sur la terre, perdu dans l'univers, un petit point, pour un tout petit point sur la terre. Le Dieu de l'univers descendait tous les jours pour une heure de rencontre avec l'homme. Et un jour, cet homme a perdu son rang. Il a perdu l'honneur et il a été dégradé. Et il y avait une image, on voyait un caporal qui cassait l'épée de Dreyfus. Je ne vous dis pas comme ça d'être un moment humiliant. Et je pense pour Adam, c'était pareil. Il y a eu un moment donné, Le Seigneur, c'est comme s'il cassait le rang d'Adam. Adam a tout été humilié, dégradé et chassé du jardin. Et je pense que ça, c'est resté dans nos vies. C'est resté dans nos âmes, cette dégradation, cette humiliation, cette chasse hors du terrain qui était à nous, de notre héritage, hors du jardin et hors de la communion de Dieu. Et on a ça en nous. Et le Seigneur dit, l'histoire de l'homme, l'histoire du monde et l'histoire de toute la parole de Dieu entière, c'est l'histoire d'une réhabilitation. Il y a une réhabilitation de l'homme. Je te rétablis dans tes droits, je te rétablis dans tes fonctions, je te rétablis dans ton poste, je te rétablis dans ton honneur, dans ta valeur, je te rétablis dans ta position devant moi, à côté de moi. Je ne suis pas un Dieu seul, je ne veux pas être un Dieu seul, je ne peux pas vivre ça. Dieu aurait pu se satisfaire, mais il a décidé dans son cœur de ne jamais se satisfaire de ça. Il a décidé d'avoir à côté de lui un égal. Et Adam n'a pas pu, mais maintenant, tous ceux qui appartiennent à Dieu peuvent de nouveau. C'est leur appel, ils sont réhabilités dans leur poste à côté de Dieu. Amen. Il est rétabli dans ses droits, et ensuite, il donne une place parmi son peuple. Donc c'est la deuxième définition, donner une place. Redonner une fonction, un poste, hein, donc ça, c'est ce que j'avais déjà dit, et redonner l'honneur, l'estime de soi et des autres. Et je crois que c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu veut te réhabiliter totalement. C'est ton appel. Deuxième personne. Alors c'est drôle, quand j'ai reçu ce mot-là, j'avais plusieurs personnes. Et quand j'ai été voir Hébreux 11, et toutes les personnes étaient l'une à la suite de l'autre dans ces passages. Après Rahab, verset 32. Le temps me manque pour parler de Gédéon. Alors moi aussi, le temps me manquera un petit peu, alors vous m'excusez si je vais vite. Donc Gédéon, c'est Juge 6. Vous connaissez tous l'histoire de Gédéon. Tu m'excuses si j'ai gardé ta Bible. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, etc. Et le Seigneur apparut, verset 11, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur le de Joas, un homme de la famille des Biézer. Gédéon, un fils de Josias, de Joas, était en train de battre le blé, etc. Verset 15, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importante. En fait, dans l'autre version, c'est la plus petite dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune, le plus petit. Comment on dirait aujourd'hui ? Le dernier des derniers. C'est le dernier des derniers. Seigneur, tu fais quoi ? Encore un ? Après Rahab, tu passes à Gédéon. Hein ? Le dernier des derniers. Le dernier qui aurait pu intéresser quelqu'un. Je ne sais pas si tu t'es déjà dit dans ton cœur, le dernier des derniers, c'est moi. Hein ? Et qu'est-ce que Dieu va faire de lui ? Il lui dit, vaillant héros, va avec la foi que tu as. Et Dieu, pourquoi ? Parce que Dieu avait vu en lui des qualités qu'il recherchait pour le combat. Est-ce qu'on connaît ces qualités ? Pas nécessairement. Parce que souvent on a dit, oh, c'est parce qu'il était en train de travailler. Peut-être. Peut-être c'est simple, c'est parce qu'il était fort, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait du courage. Peut-être qu'il avait de la détermination. Peut-être qu'il avait de la volonté. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi Dieu a choisi Gédéon. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Gédéon avait quelque chose que Dieu voulait. Est-ce que Gédéon l'avait déjà avant ? Je ne sais pas non plus. Peut-être que Dieu avait choisi Gédéon simplement parce qu'il voulait déposer en lui ce qu'il voulait. On ne sait pas. Peut-être, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a voulu Gédéon, il l'a choisi. Dans sa décision à lui, Dieu choisit librement et on n'a pas à lui dire pourquoi tu choisis lui ou lui. Et il n'y a pas nécessairement de raison. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que de toute façon, s'il y avait déjà eu quelque chose dans Gédéon que Dieu voulait, ça vient de où ce que Gédéon avait ? Ça vient de toute façon de Dieu. Et si ça n'y était pas et que Dieu le met, ça vient aussi de Dieu. De toute façon, c'est Dieu qui est à l'origine. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il est notre origine. Tu as été créé par Dieu. C'est de toute façon, tout ce que tu as vient de Dieu. Il n'y a rien que tu as qui ne vienne de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses te vanter qui ne vienne de Dieu. Si tu as de la force, ça vient de Dieu. Si tu as du courage, ça vient de Dieu. Si tu as de la sagesse, ça vient de Dieu. Si tu as des compétences et des talents, ça vient de Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu et lui appartient. parce que tu lui appartiens. Tu as été créé par Dieu pour lui appartenir. Tu as été créé à Dieu pour la gloire de Dieu. Tu as été créé par Dieu pour la joie de Dieu. Dieu t'a créé pour sa joie. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour partager sa gloire. Et Dieu t'a créé pour partager sa joie. Et Gédéon a été choisi par Dieu et Dieu lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Et il en est ainsi de ta vie. Tu es peut-être le dernier des derniers et Dieu te choisit. Alors d'une part, ça veut dire que Dieu, on ne peut pas savoir pourquoi, mais ça veut dire aussi que tu ne peux pas rester en arrière. Parce qu'on voudrait tout le temps dire, mais je suis le dernier, je ne peux pas, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et tu as certainement raison. Mais en même temps, tu n'as pas raison, parce que tu ne peux pas te cacher derrière ça. Tu ne peux pas dire, non Seigneur, moi, pas moi, parce que ceci ou cela, tu ne peux pas. Parce que de toute façon, si tu avais eu quelque chose, ça venait de Dieu. Et si tu ne l'as pas, ça vient aussi de Dieu. Mais si tu ne l'as pas et ce que tu auras besoin, Dieu te le donnera. Tout ce que tu peux dire, oui Seigneur. Oui Seigneur, comme Gédéon, je viens. Je vais avec la force que j'ai, que tu me donnes. Et je reconnais que tu m'appelles un vaillant héros. Il n'avait pas encore accompli d'exploit, Gédéon. Il n'avait encore rien fait. Tout ce qu'il avait réussi, c'était à faire rebattre le blé. Je ne pense pas que j'ai jamais fait, mais je ne pense pas que ce soit très difficile. Et Dieu l'appelait déjà vaillant héros. C'était une parole de foi. Et Dieu prononce sur ta vie des paroles de foi. Et je peux te dire une chose, c'est que la foi de Dieu, elle n'est pas vaine. La foi de Dieu, elle s'accomplit. Dieu est un croyant, il est le parfait croyant. Il croit en toi. Et quand il croit quelque chose, ça s'accomplit. Et Dieu croit en toi. Et il t'appelle, vaillant héros, lève-toi, va, délivre mon peuple. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, mais je sais que Dieu t'appelle. Et je sais qu'il te donnera la force, le talent, et la capacité de faire ce à quoi il t'appelle. Amen. Le prochain, Barak. Quelqu'un connaît Barak ? Vous n'allez pas me casser la baraque. Hein ? Au verset 33, non, verset 32, le temps me manquerait de parler de Gédéon et de Barak. Baraka, vous connaissez le mot bénédiction. Hein ? Le Baraka, donc vous voyez qu'on peut des fois changer les voyelles. C'est aussi juge, juge 4. Alors, qui c'est qui peut me raconter un peu le jeu de Barak ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui c'est qui se rappelle ? Il y avait une prophétesse en Israël qui était juge. Vous voyez qu'une femme peut avoir un rôle. Hein ? Elle était juge en Israël pendant plusieurs années. Elle a dirigé le pays. Et cette prophétesse, elle a dit à Barak, « Barak, est-ce que Dieu n'a pas dit que Dieu t'appelait ? Alors, il faut que tu te lèves et que tu ailles. Hop, au travail. » Et Barak, il dit, « C'est bien beau, ça. » Seigneur, je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'ange qui m'a apparu comme Gédéon. Gédéon, au moins, il a eu son ange. Moi, j'ai juste une parole. Est-ce que tu es sûr que c'est avec ça que je peux aller ? Moi, on ne m'a rien dit. Hein. Tu ne m'as rien dit, Seigneur, à moi. Alors, Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment il veut qu'il m'appelle. Des fois, je peux demander quelque chose à Dieu. Dieu, dans sa grande bonté, il peut le faire ou il peut ne pas le faire. C'est à lui qui décide comment il va gérer la relation avec toi, comment il gère l'appel avec toi, comment il veut t'utiliser. Laisse-le faire comme il a envie. Accepte comment il fait avec toi. Reconnais comment il fait avec toi et marche avec. Pour chacun, Dieu a une façon d'agir particulière. Elle est propre à chacun parce que Dieu a une relation personnelle avec chacun. Et alors, simplement, sachons comment Dieu fait avec nous. N'essayons pas de faire comme Dieu fait avec quelqu'un d'autre. Dieu fait d'une façon avec Luc, il fait d'une façon avec Manu. Chacun a sa façon différente, ils n'ont pas essayé de copier l'un l'autre. Mais chacun reconnaît la sienne et celle de l'autre. Reconnais comment Dieu te parle, reconnais comment Dieu parle à quelqu'un d'autre. Et quand Dieu te parle par la bouche de quelqu'un d'autre, reconnais si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, serre-le dans ton cœur et garde-le. Parce que Dieu peut t'appeler au travers de quelqu'un. Et alors Barak, il a dit une chose. Il a dit, moi je ne vais pas si tu n'es pas avec moi. En général, les hommes de Dieu disaient toujours, moi je ne vais pas à Dieu si tu ne viens pas avec moi. Barak, il a dit à Déborah, je ne viens pas si tu ne viens pas avec moi. Et c'était une femme. C'était un homme qui, peut-être, je ne sais pas, il n'a peut-être eu pas eu le courage, il n'était pas sûr que Dieu viendrait avec lui s'il n'avait pas la prophétesse. Je ne pense pas qu'on peut juger ça. Je pense qu'on doit honorer le fait que Barak a dit « Oui, je me lève. J'ai juste besoin que tu viennes avec moi. » Et ce n'est pas parce qu'il a eu besoin, d'être couvert par l'onction qui reposait sur Déborah que c'était mal. Je pense qu'au contraire, on doit apprendre, on doit écouter Papa Barak. Et qu'est-ce qu'il dit, Papa Barak ? Il dit, mon fils, si tu as besoin de l'onction, et qu'il y a un temps, si tu as besoin d'un temps d'être couvert par l'onction, ce qui est sur quelqu'un même, peut-être que c'est une femme ou c'est pas gênant. N'aie pas peur de ça. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Je te bénis au travers de ça. Et tu accompliras des exploits en mon nom. Ça peut être autre chose, bien sûr, là c'est Barak, c'est ça. Mais pour toi, c'est peut-être autre chose. Peut-être que tu as peur. Il a eu peur d'y aller tout seul, parce qu'il n'était pas certain de la présence de Dieu. Eh bien, je peux te dire, si tu as peur, c'est pas anormal. C'est pas bizarre. Mais tu peux te lever quand même. Même si tu te dis, j'ai besoin de quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un aille avec moi. C'est normal. Mais va, lève-toi, accomplis des exploits comme Barak en son nom. Et quand l'heure est venue, Barak a fait sa guerre. Et il a battu l'armée. Et il a été jusqu'au bout. Et il a détruit l'adversaire. Amen. Et Dieu fera avec ça aussi de toi. Et Dieu a mis Barak. Il a dit, Barak, je le mets dans ma liste des pères. J'ai vu Barak. Je l'ai aimé. Et je le reconnais comme un père dans la lignée de mes enfants. Ensuite, le suivant, c'est quel ? Samson. Si je dis Samson, quelle est l'image que vous avez de Samson ? Samuel Pierre, il est... Alors, qu'est-ce que vous avez comme image pour Samson ? Dites fort. Baraké, ouais, bien beau. Comment ? Cheveux longs. Yeux crevés. Fort, une force surhumaine. Chabal. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'image de Chabal ? Alors, peut-être qu'avec Chabal, vous comprenez où je veux en venir. Pas très futé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Chabal, il fait le mastoc, mais il ne fait pas le très futé. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que je ne vais pas casser Chabal hein ? C'était... Au fait, j'ai oublié de vous dire. Vous avez remarqué qu'on a gagné à la Coupe du Monde ? Eh bien oui, l'Afrique du Sud, ce sont nos descendants. Ce sont des descendants de Huguenots. Donc, on a gagné. Amen. Et vous savez pourquoi on a perdu contre l'Angleterre ? Parce qu'on aurait dû jouer contre l'Afrique du Sud. Et que si on avait perdu, ça aurait été un parricide. Alors, merci Seigneur pour notre défaite. Parce qu'on n'a pas dû jouer contre nos fils. Et même si on avait gagné, on aurait dû tuer nos enfants. Non, moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de Dieu du fait que la France n'a pas joué contre l'Afrique du Sud. Parce que le perdant aurait une blessure dans son cœur. Il y aurait eu... Ah ben, un peu quand même. Hein. Vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je sais qu'il y aurait eu une blessure et que ce serait resté. Et que vous savez qu'en novembre, en Afrique du Sud, il y a une rencontre pour la réconciliation, pour l'amour de la France, parce qu'ils veulent bénir la France. Ils intercèdent, il y a des mouvements d'intercession toutes les semaines pour la France, parce qu'ils croient que Dieu a un destin pour la France, qu'il veut la lever, et qu'ils savent qu'ils sont des descendants de Français, et qu'ils savent qu'ils ont eu un appel pour prier pour nous, et qu'ils vont envoyer ils envoient des ouvriers chez nous. Donc, merci Seigneur pour l'Afrique du Sud, et on l'a béni. Et merci Seigneur qu'il n'y a pas eu de guerre fratricide entre les deux pays. Et Seigneur, bénis l'Afrique du Sud. Amen. Alors, Chabal, effectivement, il me fait bien penser à Samson. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci, Raph. Samson, on a l'image de quelqu'un qui n'a pas été très intelligent dans sa vie. Il n'a pas été droit dans ses bottes. Il n'a pas été décidé à suivre la voie de Dieu. On a l'impression qu'il a fait n'importe quoi dans sa vie. Il était vers les Philistins, il était amoureux d'une fille. Il s'est marié avec elle. Il n'était même pas avec elle, il repartait chez lui, il revenait quand il avait envie. À un moment donné... On l'a donné à quelqu'un d'autre, ce fou-là. Il détruit toute la maison, il détruit tout, il tue plein de Philistins. Ensuite, il va vers une prostituée là-bas. Il tombe amoureux d'elle, il est bête, il donne tout son secret. Mais n'importe quoi, Samson. N'importe quoi, vous n'êtes pas d'accord ? Pas très futé. Enfin, moi, c'est l'image que j'avais. Hein. Et finalement, quand on y regarde de plus près, on est un peu surpris. Dans Juges 13... Premièrement, l'appel de Samson s'est fait dès son enfance, quand il était dans le ventre de sa mère. L'ange de Dieu vient. Quand un ange de Dieu vient, ce n'est pas pour dire des sornettes et ce n'est pas pour n'importe quoi. C'est que Dieu avait un plan précis. Et il a dit, ton enfant, il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Eh bien, je ne connais pas quelqu'un d'autre que Dieu ait dit ça. Jusqu'au jour de sa mort. C'est que dès le début, Dieu avait vu ce que Samson vivrait. Et il avait dit, ne vous y trompez pas. La vie de Samson, elle est sous ma direction. Je la conduis de A à Z. Je permets tout ce qui se passerait dans sa vie. Il est consacré à Dieu dès le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Ça veut dire que toute la vie de Samson était déjà devant Dieu, qu'il la connaissait, qu'il l'avait mise à part et qu'il la voulait. Et qu'elle allait servir au plan de Dieu. Et on ne sait jamais ce que Dieu va faire de nos vies. Tu ne sais pas ce que Dieu a permis dans ta vie. Tu ne sais pas comment Dieu va utiliser ta vie. Mais à partir du moment où tu l'as donnée à Dieu, ta vie, elle est consacrée à Dieu. Et je crois que si tu l'as donnée un jour à Dieu, ta vie, c'est parce qu'elle a été consacrée à Dieu dès le ventre de ta maman jusqu'au jour de ta mort. Ta vie a été consacrée à Dieu. Ce n'est peut-être pas tes parents qui l'ont fait. Mais est-ce que c'est les parents de Samson qui ont consacré Samson à Dieu ? Qui a consacré Samson à Dieu ? Qui ? Dieu lui-même. Il s'est consacré Samson à lui-même. Et les parents n'ont rien eu à dire. Et des fois, moi je me suis déjà demandé, est-ce que Seigneur, si un des parents ne consacre pas à leurs enfants, est-ce que ça fait quelque chose ? Eh bien, je crois qu'on a une réponse. Dieu a consacré ta vie à lui depuis ta naissance. Et souvent, on disait le psaume 139, « Mais Seigneur, si ma vie a été consacrée à Dieu dès ma naissance, si effectivement tu as tout vu, pourquoi toute cette souffrance dans ma vie ? Pourquoi ça ? Mais je n'ai pas de réponse. Mais je sais une chose, c'est que ta vie elle est consacrée à Dieu, que tes parents l'aient consacrée à Dieu ou pas. Dieu t'a consacré ta vie pour lui. Et après, les choses qui arrivent dans ta vie, Dieu les utilise. Chapitre 14. Donc, je raconte un tout petit peu l'histoire. Donc, il a vu une fille en Palestine, qui était belle. Il est tombé amoureux. Il vient vers ses parents, demander leur mariage pour moi. Verset 4. Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, cela venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Vous vous rendez compte ? On pourrait dire, mais c'est n'importe quoi. Mais Dieu dit non. S'il va chercher une fille en Palestine, ça vient de moi. Parents, est-ce qu'on n'est pas des fois inquiets pour nos enfants ? Des choix qu'ils font ? Et est-ce que c'est possible que le Seigneur dit peut-être, mais ça vient de moi ? Je ne vous le dis pas que ça vient toujours de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que l'enfant est consacré à Dieu de l'élan de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Et s'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, Dieu garde la main sur la vie. Et on peut avoir confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas des fois dire des choses aux enfants. On doit les avertir. Mais on doit aussi les confier à Dieu et les remettre entre les mains de Dieu. Dieu cherchait une occasion de conflit avec les Philistins. Oh, moi, ça me fait tout drôle. Dieu cherchait une occasion de conflit. Vous vous rendez compte ? Est-ce que ça vous plaît, ça ? Que Dieu cherche des occasions de conflit. Des fois, il y a des conflits, on dit, oh, c'est pas Dieu ça. Et là, Dieu cherche une occasion de conflit avec les Philistins. Parce que Dieu voulait châtier les Philistins. Dieu avait un travail à faire avec eux. Et Samson était un ouvrier dans la main de Dieu. Et alors, on avait l'habitude. C'est sûr que toutes les phases, j'ai l'habitude, Dieu servait l'armée d'Israël. Allez hop, vous combattez, je serai avec vous. Gédéon, tu prends 300 hommes. Barak, tu as une armée. Et avec Samson, Dieu a fait différemment. Dieu fait comme il veut. Une fois, il agit comme ça. Une fois, il agit comme ça. Et Samson, il a dit, je vais prendre un seul homme et je vais faire la guerre contre les Philistins avec un seul homme. C'est le seul homme qu'on connaisse cette force qu'il a eue, une force surhumaine. Hein. Et Dieu a agi d'une façon qui nous déroute. Mais c'est la main de Dieu, c'est la gloire de Dieu d'agir comme il le veut. Amen. Et alors peut-être que tu ne sais pas comment Dieu agit avec ta vie. Tu te dis, mais Seigneur, comment que ça se fait ? Pourquoi il y a ça dans ma vie ? Ou pourquoi il y a ça dans la vie de celui-là ou celui-là ? La parole de Dieu, ne juge pas des choses avant le temps. Ne jugeons pas des choses. Laissons Dieu faire avec les vies de chacun comment Dieu le veut, comment Dieu le pense. Et Samson, avec tout ce qu'il a vécu, donc après il y a encore eu Dalila, il a fait une grosse erreur, il a dit son secret. Effectivement, mais ça ne l'a pas déconsacré. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Ça veut simplement dire qu'il a fait une grosse erreur et qu'il l'a payé cher. Il a payé cher son erreur. Il a eu les deux yeux crevés, il a été mis en prison, il a travaillé pour les Philistins, il n'a plus rien pu faire. Mais Dieu était toujours là. Et quand il est de nouveau rentré dans les conditions que Dieu disait, c'était juste d'avoir les cheveux longs, quand c'est arrivé de nouveau, et Dieu l'a réutilisé avec la même puissance, et même, elle dit, encore davantage. Parce qu'au jour de sa mort, il a tué plus d'hommes, plus d'ennemis de Dieu que pendant sa vie. Dieu l'a réhabilité et il l'a mis dans la lignée des témoins, comme un père pour toi. Écoute, mon fils, ce que Samson te dit. Écoute, apprends de ton père. Amen. Il l'a rétabli et quelque part, moi, j'avais aussi envie de rétablir, de réhabiliter. Parce que dans ma tête, j'avais une image négative. Vous m'accordez encore quelques minutes ? D'accord ? Le dernier, c'est Jephté, hein, dans la liste, dans Hébreux 11, le dernier qui dit, comme ça rapidement, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est Jephté. J'aime beaucoup Jephté au chapitre Juges 11. Jephté, originaire de Galaad, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée. C'est incroyable, hein ? Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Lorsque la femme légitime de l'homme lui a donné des fils, jusqu'à présent, il était l'aîné. A priori, c'est ça, hein, puisqu'il est le premier. Et après qu'il y a eu des fils. Donc ça veut dire que pendant un temps, il a été le bien vu. Il a été le bien aimé. Il avait les beaux vêtements de toutes les couleurs. Il était le fils héritier. Il est l'héritier des terres, des maisons, des biens. Tout. Il avait tout l'amour de son père. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe ? Les frères de Jephté le chassèrent de son foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. C'est un chassé, un dégradé, un déshérité, un rejeté, un mal-aimé. Tout, il a tout eu, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a tout perdu, comme Joseph. Il a dû reconstruire sa vie à partir de rien. Est-ce que ça arrive des fois dans nos vies ? Qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien, que Dieu a tout enlevé, que notre héritage est perdu. J'ai plus d'héritage, j'ai plus rien, tout m'a été enlevé. Qu'est-ce qui se passe plus loin ? Il y a une armée qui vient contre eux, ils ne savent pas quoi faire. Je ne sais pas pourquoi les frères de Jephté ne semblaient pas habitués à la guerre. En tout cas, ils disent, on va chercher Jephté. Et ils le rappellent. Viens Jephté à notre secours, viens te battre pour nous. Viens prendre le commandement de nos troupes. Et Jephté leur répondit, vous m'avez haï. Vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ? Et il dit plus loin, d'accord, ben si vous me rappelez, si je reviens, alors je serai votre chef. Et alors évidemment, s'il est chef, ça veut dire je reprends tout, je récupère tout. Je récupère mon poste, mon rôle, ma fonction, mon héritage, ma place de chef de famille, mes biens, tout. C'est une réhabilitation totale. Amen. Jephté le réhabilité. Il reprend tout l'héritage, toutes ses possessions. Et il a si bien appris qu'il retournait dans son héritage et qu'il reprenait possession de tout. Vous savez ce qu'il va répondre au verset 23 ? À un moment donné, il y a une discussion avec les ennemis. Les ennemis l'appellent et discutent avec lui. Et alors, il répond au verset 23. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a enlevé leur territoire aux Amoréens et l'a donné à son peuple d'Israël, tu voudrais, toi, les en déposséder ? C'est la seule fois où j'entends ce genre de phrase, il me semble. Parce que Jephté avait appris. Il avait été dépossédé et il a dit une fois d'accord, mais pas deux. Une fois, mais pas deux. Tu m'as pris une fois, tu ne m'en prendras plus jamais. Et maintenant, moi, en tant que chef d'Israël, je suis là et j'y reste. Israël, on ne le dépossédera pas. On m'a donné une position de chef. Mais plus personne ne touche maintenant à mon héritage. On me l'a fait une fois, que personne ne revienne. Il continue verset 24. Tu possèdes, toi, tout le territoire que ton Dieu, qui est moche, très moche d'ailleurs, t'a donné. Alors pourquoi ? Excusez-moi, j'ai pas retenu. J'ai pas pu retenir, hein, fallait que je fasse. Alors pourquoi ton Dieu, qui est moche, tout ce qui t'a donné, tu le gardes. Tu le gardes en possession et tu n'es pas d'accord qu'on te le prenne. Et nous, alors nous, on ne posséderait pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a permis de conquérir ? Est-ce qu'on ne posséderait pas tout notre héritage ? Est-ce que c'est ça le cri de notre cœur ? Est-ce qu'on a le cri de Jephté dans notre cœur ? Ou est-ce qu'on se laisse facilement prendre ? Mais je crois que Dieu veut lever dans nos cœurs un cri qui fera qu'on ne touche plus à notre héritage. Je crois qu'on est appelé à être des Jephtés qui se lèvent, et qu'on dise « Oui, on nous a volés. Oui, pendant une fois, dans ma vie, on m'a appris plein de choses. Moi, je peux vous dire que Dieu m'a dit, on m'a volé des choses. J'ai été volé dans ma vie. Je sais que j'ai été volé. Je sais qu'il y a des choses qu'on m'a prises. Je sais qu'il y a des héritages que j'aurais dû avoir que je n'ai pas eu. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais dû vivre que je n'ai pas vécues. Il y a des choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas faites. Il y a des erreurs que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire. Il y a plein de choses. Je pense que je peux rentrer dans toute la catégorie de ces hommes qu'on a décrits. Est-ce que toi aussi ? À mon avis, oui. Mais maintenant, je crois quand le cri de Jephté doit se lever en nous. Une fois, on me l'a fait, mais pas deux. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que maintenant, on doit décider que l'héritage sera à nous et que plus personne ne le prendra. Et on doit se lever en tant que peuple et on doit dire l'héritage, je le veux. Parce que Dieu nous demande, mais j'ai un héritage pour toi. Est-ce que tu seras jaloux de cet héritage ? Est-ce que tu auras assez envie de l'héritage pour te lever et te battre ? Ou est-ce que l'héritage, tu vas le mépriser ? Ou est-ce que l'héritage, il va pourrir dans un coin parce que tu ne l'as pas pris ? Parce que des ennemis l'ont pris ? Et je crois que Dieu nous appelle à nous lever et à rentrer en possession de l'héritage et à faire la guerre à l'ennemi. Comment ? À chacun de savoir comment Dieu l'appelle. Mais en tout cas, en tant que corps, on doit savoir comment Dieu nous appelle en tant que corps. Il y a des choses que Dieu nous donne, des directions, et Dieu va le faire. Dieu va nous lever en tant que corps pour prendre possession de notre héritage. Amen. Job, c'était le grand spolié de la parole aussi. Tout lui a été pris. Et à la fin, Dieu dit, Dieu rendit tout à Job, et encore davantage. Dieu a tout redonné à Job, et le double de tout ce qu'il avait perdu. Il le réhabilité. Dieu te réhabilite de la même façon. Alléluia, papa. Je crois que vraiment qu'on veut simplement prier. Et je t'appelle à rentrer dans la pensée de la réhabilitation. Dieu te réhabilite. Je ne sais pas quel est ton passé. Tu es dans quelle catégorie ? Est-ce que tu rentres dans une catégorie, dans une plusieurs, dans ce type de personnage ? On s'est peut-être reconnu, mais Dieu te réhabilite quoi que tu as vécu. Si tu as été rejeté, abandonné, méprisé, si on t'a volé des héritages, si toi tu as gâché ta vie dès ta jeunesse, si tu étais comme Rahab avec une vie gâchée, si tu étais comme Jephté, chassé, si tu étais comme Gédéon, a priori tout allait bien, mais sans a priori tu n'étais pas destiné à quelque chose. Si tu étais comme Samson, à avoir l'impression de vivre dans ta vie des choses bizarres, étonnantes. De toute façon, Dieu t'appelle et te réhabilite parce que tu es son enfant, parce que tu es son fils. Dieu te réhabilite. Dieu te rétablit dans ton héritage. Dieu te redonne ce qui t'a été volé. Dieu restaure ce qui était abîmé. Alléluia, papa. Alléluia, vraiment, on veut te laisser faire dans nos vies. On veut simplement devenir plein de foi. Seigneur, s'ils sont les témoins de la foi, s'ils sont les pères de la foi, c'est parce qu'ils ont cru. C'est parce que la foi leur a donné la force nécessaire à un moment donné. Rahab, c'est en une nuit, dans une seule nuit. Cette nuit-là, c'était la nuit de l'appel de Rahab. Et elle a répondu présent, elle a répondu présente, elle a répondu à l'appel. Elle a caché dans cette nuit terrible. Dans cette nuit, on est venu frapper à sa porte. C'était une nuit de la décision. Et Seigneur, tu mets des temps de décision dans nos vies. Et Seigneur, on répond présent. Alléluia, papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Si jamais il y a quelqu'un qui aurait compris particulièrement pour lui, je proposerais simplement qu'il puisse peut-être se lever. Alléluia. Papa, on veut vraiment te laisser faire. Croire que tu es celui qui réhabilite, qui rétablit, qui restaure, qui guérit. Qui guérit les mensonges de l'ennemi. Qui enlève les traces laissées par le passé, par tout ce qu'on nous a appris, par ce que la vie nous a appris. Tu guéris les traces. Tu restaures. Tu dis, mon fils, ma fille, je t'aime tant. Je t'aime tant, j'ai un héritage pour toi. J'ai tout préparé pour toi, pour que tu y rentres. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que tu as été spolié, je veux te le redonner et encore davantage. Ne te mets pas de côté toi-même. Ne pense pas que tu n'es pas concerné. Tu es à moi depuis le vent de ta mère et tu le seras jusqu'à la fin de tes jours. Ta vie m'appartient. Laisse-moi faire dans ta vie. Fais-moi confiance. Alléluia, papa.
Pendant que Franck parlait de Dreyfus avec son épée qui était brisée, je ressens que c'est le cas de peut-être une ou plusieurs personnes au milieu de nous. C'est cette épée de la parole qui a été brisée, c'est-à-dire l'autorité qui était enlevée. Et le Seigneur te dit ce matin, je te réhabilite, je te redonne cette épée maintenant. Alors prends cette épée, regarde pas en arrière, prends cette épée et combat, le bon combat de la foi, à nouveau, non pas avec tes paroles et tes mots à toi, mais avec ma parole, dit le Seigneur.
Et il y avait une deuxième image, c'était à la réhabilitation, lui redonner une épée. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, nous redonnons l'épée maintenant. Nous redonnons l'épée à ceux qui avaient été volés dans l'autorité du nom de Jésus. Nous représentons l'épée. Nous représentons le droit de parler au nom de Jésus. Nous représentons la parole, la confession de la parole dans ta bouche. Maintenant, je redonne dans le nom de Jésus, je te redonne la parole dans ta bouche. La parole de la foi, la parole de la confiance. Alléluia, papa. Alléluia, Seigneur. La parole de l'espérance. Alléluia, Seigneur. Alléluia, papa. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de Gisèle, peut-être, juste pour prier ? Seigneur, nous vraiment nous les couvrons. Et Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu se lever, peut-être. Seigneur, merci parce que tu t'approches de nous. Et tu restitues. Tu as dit dans ta parole, il n'y a personne qui dit restitue. Et bien, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que corps, nous disons restitue. Restitue au nom de Jésus, restitution de l'héritage. Restitution de tout l'héritage à chacun. Restitution. Le voleur vient pour voler, pour détruire. Mais toi, tu es venu pour donner la vie en abondance, pour redonner l'héritage. Tu nous appelles les fils du royaume, les filles du royaume. Nous sommes les héritiers du royaume. Et nous le proclamons au nom de Jésus. C'est notre nom, fils du royaume. Héritier. Nous proclamons, Seigneur, que nous sommes des héritiers. Alléluia, papa. Même si nous ne connaissons pas tout l'héritage, même si nous ne comprenons pas tout ce que cela signifie, Seigneur, ce n'est pas grave, parce que simplement nous comprendrons quand l'héritage viendra. Alléluia. J'ai cette pensée, hein. Souvent, quand nous sommes héritiers, on ne sait pas toujours de quoi on va hériter. Et alors, peut-être, des fois, on n'a pas conscience de quel est le combat qu'on doit mener, parce qu'on ne comprend pas notre héritage. Mais Dieu veut te dire, tu as un héritage merveilleux. Tu as un héritage merveilleux. Il est grandiose, ton héritage. Alors, ça vaut la peine que tu te battes pour l'héritage, même si tu ne sais pas tout ce qu'il y a derrière. Même si tu vas peut-être le découvrir petit à petit, au fur et à mesure. Il est merveilleux pour toi. Amen. Je propose que ceux qui veulent y aller puissent y aller. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia, Seigneur, tu t'approches. Tu restaures, papa. Tu restaures l'image de nous-mêmes. Seigneur, tu veux nous redonner la valeur de nous-mêmes, l'honneur. Notre honneur a été blessé. Il y a eu des coups d'épée dans notre honneur. Notre estime de nous-mêmes a été détruite. Mais Seigneur, tu réhabilites à nos yeux et aux yeux des autres, tu réhabilites notre honneur. J'appelle l'honneur. Je dis que l'honneur est un de nos héritages. Seigneur, nous avons perdu le sens de l'honneur. Seigneur, je rappelle l'honneur et je redonne l'honneur. Honneur, reviens. Honneur, reviens au nom de Jésus. Honneur, estime de toi-même, reviens. Estime de soi, reviens au nom de Jésus. Je rappelle l'estime de soi. Alléluia. La valeur aux yeux des autres. La valeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as une fonction dans le peuple de Dieu, tu as un appel. Tu as un rôle, tu as une position que Dieu te donne. C'est une place qui est pour toi. Dieu t'établit. Tu porteras du fruit. Alléluia. Tu régneras avec Christ. Alléluia. Tes droits t'en sont rendus. Tes droits te sont rendus. Alléluia. Tu es réhabilité. Alléluia. Alléluia, Jésus. Kore levede kana manakida. Kore lidi kana manakidi. Kore levede kaida. Je rappelle la joie. La joie a été volée parmi le peuple de Dieu. Je rappelle la joie. Je rappelle la joie au nom de Jésus. Seigneur, nous rappelons la joie. Alléluia, Seigneur. La joie de l'Éternel est notre force, Seigneur. Nous la rappelons au nom de Jésus. Alléluia, Papa. Koide devidi kana marakida. Koide devidi kana marakida. Koide devidi kana marakida. Amen. Vraiment, je voudrais vous bénir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne toute cette semaine.